Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bon lundi, nous sommes le 2 août 2021, bon début d'après-midi. Ça passe-tu assez vite? C'est incroyable. Il y a eu 2 semaines de vacances de la construction, elles ont filé comme ça et nous n'étions pas en vacances. Fait qu'imaginez-vous ceux qui étaient en vacances, comment ils ont dû penser que ça a passé vite? C'est assez incroyable. Alors on se dirige lentement mais sûrement vers un mois d'août qui va nous mener en septembre et après je vous laisse faire le décompte pour la première neige. On va regarder ensemble ce qui se passe dans notre société. Des coups d'armes à feu. Il y a eu 12 fusillades en juillet dernier seulement. 12 fusillades. Des décès, des blessés. Il y en a eu une autre encore hier, dans un autre quartier. Mais aussi, il y a eu une intervention policière qui, moi, je pense, quand ça se conclut par mort d'homme, c'est une opération policière qui n'a pas fonctionné. On va en parler avec des gens qui connaissent ça, mais j'ai déjà parlé avec des policiers qui ont dit, écoute, quand on intervient puis que quelqu'un est abattu, c'est pas une fierté, là. On a manqué notre interception. On dit pas que c'est notre faute, mais c'est pas le résultat recherché. Les policiers de Repentigny ont donc hier abattu un homme qui était en crise et qui était armé d'un couteau. Le dossier est maintenant entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes et on va parler des faits avec Sabrina Rivet. Bonjour Sabrina.
Bonjour Jean-Luc.
Comment ça s'est passé tout ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça commence quand? Puis ça se termine tristement, mais comment ça a commencé?
Voilà. Donc, ça débute hier matin vers 7h30. Il y a le service de police de Repentigny qui reçoit enfin un appel concernant un homme qui semble confus et désorganisé et qui est armé d'un couteau. Et là, tout ça, ça se passe en plein cœur d'un quartier résidentiel. Alors, lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils vont être en mesure de localiser l'homme de 38 ans qui est à ce moment-là avec une autre personne. J'ai pas le lien, mais je sais juste qu'il est avec une autre personne. Les agents ont tenté d'entrer en contact avec lui, mais il aurait tenté de prendre la fuite à pied tout en ayant toujours, là, je vous le rappelle, son couteau avec lui. Et il aurait aussi été menaçant envers les policiers. Donc, comme les agents n'étaient pas en mesure de le raisonner, ils auraient tenté d'utiliser du poivre de Cayenne, mais ça non plus, ça n'aurait pas fonctionné. Et c'est là, en fait, que les policiers auraient fait feu. On parle de plusieurs coups de feu qui ont été tirés à la direction du suspect, qui a finalement été atteint mortellement. On parle de 6 enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes qui ont été chargés de faire la lumière, évidemment, sur cet événement-là, parce que à chaque fois qu'il y a un décès ou à tout le moins quelqu'un qui est blessé lors d'une opération policière, bien, c'est le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, qui est chargé de l'enquête. Alors, évidemment, on vous demande, si vous avez été témoin de l'événement aussi, de joindre le BEI. Quand même, les policiers ont tenté de raisonner de ce qu'on comprend, les informations préliminaires du Bureau des enquêtes indépendantes, c'est que les policiers ont tenté d'entrer en contact avec les individus. Par la suite, de ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils auraient eu des craintes pour leur sécurité et c'est à ce moment qu'ils ont ouvert le feu. Et là, d'ailleurs, il y a la famille de cet homme-là qui est abattu hier du côté de Repentigny, qui doit s'adresser aux médias au cours des prochaines minutes, c'est selon la presse canadienne. Alors, il y a même des responsables du Centre de recherche Action sur les relations raciales également qui seront présents. Ils vont sûrement, bon, évidemment, vouloir poser des questions, savoir pourquoi finalement on a abattu cet homme-là, cet homme de 38 ans, est-ce qu'il avait des antécédents judiciaires, pourquoi on en est venu à abattre cet homme-là. Visiblement, on a quand même les premières informations, mais somme toute, qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi on est venu à tirer sur cet homme-là. Et visiblement, les gens de la famille qui veulent obtenir des réponses et qui vont tenir ce point de presse-là et qui vont pouvoir mettre un peu de pression là, sur le service de police de Repentigny, puis vous, aussi le BEI là, pour tenter d'en apprendre davantage.
Sabrina, merci beaucoup de ces précisions.
Ça fait plaisir.
Merci bien. Je rappelle que, justement, cette famille qui tiendra un point de presse cet après-midi, notre journaliste Annie Guillemette, est en route. Elle se rend sur place et on aura évidemment le compte-rendu de ce qu'a déclaré la famille de cette victime. On va parler, si vous le voulez bien maintenant, à un spécialiste du domaine, André Gélinas, qui est un policier retraité du SPVM. Bonjour, M. Gélinas.
Bonjour, M. Mongrain.
André Gélinas, lorsqu'on est appelé sur une scène où un homme semble décompensé, en crise, est-ce qu'on s'attend au pire tout le temps ou si on dit, bon, un autre, on va l'arrêter, on va y mettre les menottes puis on s'en va avec?
Non, écoutez, vous avez raison. Lorsqu'on s'en va sur des scènes comme ça, il y a une partie de l'information qui est souvent fragmentaire, qui nous est qui nous est relayé via nos systèmes de communication. Et on a une petite idée de ce qui se passe. Évidemment, on s'en va toujours avec la crainte que le pire peut se produire. Et c'est justement avec cette attitude-là que les policiers parviennent, justement, dans la très grande majorité des cas, à faire une désescalade et à éviter le pire.
Une désescalade, vous voulez dire quoi? Ramener le gars à la raison, la personne à la raison?
Ben oui, on pourrait l'expliquer comme ça, parce que regardez, dans les informations là assez partielles qu'on a, on voit que les policiers ont discuté longuement avec l'individu, ont tenté de le raisonner, ont tenté d'utiliser le poivre de Cayenne, et par la suite ont dû malheureusement utiliser ce que nous on appelle, en vertu de notre modèle national, l'emploi de la force, c'est la force d'arrêt. La force d'arrêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un danger imminent, que soit on craigne la mort ou des lésions corporelles graves pour soi ou autrui, on se doit d'utiliser la force d'arrêt. Il faut que l'agression, il faut que la menace stoppe immédiatement, pas dans 30 secondes, pas dans 2 minutes, immédiatement, parce que les conséquences pour soi ou un autre citoyen pourraient être excessivement graves, telles que je vous l'ai décrites.
Est-ce que pour un policier qui est armé avec du poivre de Cayenne, avec un revolver, un couteau, c'est une arme vraiment égale au péril?
Ah, tout à fait, parce qu'écoutez, un couteau, en fait, comme je vous expliquais, les articles du Code criminel qui traitent de l'utilisation de la puissance d'arrêt parlent de la mort, évidemment, ou de lésions corporelles graves. Une lésion corporelle grave, c'est vous perdez un œil suite à un coup de couteau, vous vous faites trancher une artère, les risques de mort sont assez importants. Donc, un couteau, peu importe la grandeur qu'il a, peut représenter un danger excessivement grave pour le policier ou encore une fois, pour les gens qui peuvent entourer l'intervention, notamment lorsqu'un individu tente de se soustraire à l'intervention en prenant la fuite. Là, le danger, les policiers vont intervenir parce qu'ils craignent que cet individu-là, avec les comportements qu'il a eus, le fait qu'il n'a pas écouté, le fait que des armes intermédiaires comme le poivre de Cayenne n'ont pas fonctionné, qui décide de fuir, on ne peut pas se ramasser avec une prise d'otage ailleurs. Okay. Donc, bon, c'est à ce moment-là
ça, c'est intéressant. Que les policiers interviennent. Oui. Vous avez partiellement répondu à ma question. C'est pas uniquement quand le policier se sent en danger qu'il peut intervenir pour faire feu. Parce que là, ce que je comprends, c'est que le gars, il a son couteau, mais il se pousse. Il sauve le monsieur. Donc, vous courez après pour le descendre, pour éviter qu'il aille prendre quelqu'un d'autre. C'est ça que je comprends?
Bien, en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est, dans une situation comme ça, c'est pas nécessairement de le descendre. Parce que ce qu'on veut faire, c'est, de circonscrire la fuite de l'individu, l'empêcher. Il faut l'isoler, il faut parvenir à le contrôler pour la suite, essayer d'entamer ce qu'on appelle une reddition de l'individu. Mais en bout de ligne, l'individu est maître jusqu'à un certain point de ses gestes. C'est lui qui nous dicte notre conduite lorsqu'il ne collabore pas. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on fait feu sur un individu, parce que, comme je vous disais, on a les motifs de croire que nous ou quelqu'un d'autre est dans un danger grave, ben on va faire feu, ce qu'on appelle dans le centre-masse, parce que c'est l'endroit dans le centre-masse, c'est-à-dire dans le milieu du torse.
OK.
Parce que la façon de produire un arrêt immédiat de la menace, de l'agression, il faut causer soit une chute de pression sanguine extrêmement importante ou une dysfonction biomécanique qui fait en sorte que l'individu n'est plus capable d'opposer une résistance.
OK.
Malheureusement, la conséquence de ça, c'est quelquefois la mort, mais c'est pas la mort qui est recherchée, c'est vraiment l'arrêt immédiat de l'agression. C'est ce que le code criminel nous dit de faire.
Est-ce qu'on fait feu jusqu'à temps que l'objectif d'immobiliser soit atteint?
On fait feu jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. C'est-à-dire, si ça prend un coup de feu, bien évidemment, il n'y en aura pas un deuxième. Mais si après le premier coup de feu, la menace ne cesse pas, parce que, un, l'individu est dans une condition psychique telle qu'il ne ressent pas la douleur, qu'il est sous l'influence de stupéfiants ou autres substances, ben, il y a des cas qui sont documentés qui effectivement prouvent que c'est vraiment pas le premier coup de feu qui va faire effet. Moi, j'ai été déployé 9 mois en Afghanistan, puis il y a énormément de cas documentés où est-ce que les individus ont reçu plus qu'un projectile alors qu'ils étaient sous l'influence de drogue et ça ne les a absolument pas stoppés dans l'agression qu'ils faisaient.
Est-ce que lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, nous sommes suffisamment préparés. Vous comprenez, là, admettons, là, je vous donne un scénario. Là. Il est 8h15 le matin, je viens de manger mes deux beignes, pris mon café, j'ose avec les boys, j'ai-tu passé une bonne fin de semaine, on fait de la patrouille, on s'en va petit peu pépère dans nos rues, puis on regarde ça pour protéger les citoyens, puis surveiller. Puis à un moment donné, ça part sur la radio de police, ça, un gars armé, ça, menaçant. On est-tu préparé à ça? Êtes-vous formé suffisamment à ça pour prendre un revolver à 9 heures le matin, mettons, dans mon scénario, puis dire au gars, calme-toi, 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 j'ose avec, pow, pow, c'est fini. Je veux dire, est-ce qu'on est préparé à ça?
Suffisamment. Premièrement, il n'y a pas un policier qui se lève le matin puis qui souhaite que ça lui arrive.
J'en suis convaincu.
C'est hors de question. Présentement, oui, on est préparé d'une certaine façon, parce qu'on subit des entraînements, parce qu'on a de la préparation mentale, on a des formations, mais il faut comprendre que ces formations-là vont jamais jusqu'à un réalisme identique à ce que la réalité va nous mettre dans le visage. On fait des simulations, on essaie de reproduire le stress, on essaie de reproduire la peur, mais il faut comprendre que dans une situation comme ça, très rapidement, l'organisme humain va passer en haut de 170 battements par minute. Le policier tombe dans une zone d'hypervigilance, vision tunnel, perte de motricité fine. Il va perdre certaines capacités de sensation. Donc, le policier, ou comme n'importe quel autre individu, ne fonctionne plus comme un individu qui est assis au repos, qui ne craint pas pour sa vie ou pour celle de quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, on passe, comme vous dites, là, de « je suis en train de digérer mon déjeuner » à « bang, en une fraction de seconde, je suis confronté au pire ». Et ça, c'est très difficile. Et malgré tous les entraînements qu'on peut avoir, les entraînements, on va s'entendre, il n'y en aura jamais assez. Mais on ne pourra jamais s'approcher aussi près de la réalité. Et ça, malheureusement, c'est le lot de tous les corps de police dans le monde entier.
Ben, ça doit être comme, mettons, je prends un exemple, les pilotes de ligne. Ils font des simulations, ils font des simulateurs, mais le problème est le suivant, c'est que quand ça arrive et que tu n'as plus de gaz comme Piché a eu, je pense pas qu'il ait jamais essayé ça dans un simulateur.
Ben non, évidemment, on peut pas pousser le réalisme jusqu'à recréer le stress réel d'une situation où est-ce qu'on a la vie de nos citoyens et notre vie et celle de nos partenaires en jeu. Ça, c'est le paroxysme en termes de stress chez un être humain. Il n'y a pas grand-chose qui bat ça. Là.
Parfait. Là, je vais vous parler d'une autre préparation que celle de l'arme et de l'intervention. Je vais vous parler de la préparation que vous avez de faire affaire avec d'autres que nous.
Mm-hmm.
Parce que j'ai le communiqué ici du service de police. Je ne veux pas vous faire commenter le travail d'un autre policier, là, mais j'ai le communiqué du service de police là, de ce coin-là, là, okay? De Repentigny. Ils disent « Aujourd'hui, vers 7h33, nos agents sont appelés à intervenir auprès d'une personne en détresse et armée d'un couteau lors d'une situation qui s'est conclue tragiquement. Il s'agit d'un premier événement de ce genre dans l'histoire de Repentigny. » OK? La phrase d'après. « Nous comprenons que cette situation pourrait être particulièrement éprouvante pour les personnes noires qui peuvent déjà avoir beaucoup d'appréhension envers notre service. » Qu'est-ce qu'il vient de dire, là, lui, ce communiqué-là? Il vient de dire, ben, c'est peut-être du profilage racial. Êtes-vous préparé à ça? Parce que c'est un très mauvais communiqué. C'est mal écrit. C'est un très mauvais communiqué. Ça, c'est en communication, c'est pas un cours de police. Mais êtes-vous préparé à ça?
Ben, écoutez, d'emblée, je suis d'accord avec vous là, que c'est une phrase qui est complètement inutile parce que, un, elle ouvre la porte à un paquet d'hypothèses écoutez, ça n'a pas de bon sens d'écrire ça, là, malgré tout le respect que je peux avoir pour mes distingués collègues qui ont travaillé à ça, mais en même temps, est-ce qu'on est préparé à ça? Moi, je vous dirais que justement, parce qu'on sait qu'on est constamment sous l'observation de la société, puis c'est correct aussi, là,
oui, bien sûr.
Je veux pas, on est redevable, ça, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Mais en même temps, moi, ce que ça m'amène comme inquiétude, c'est lorsque des commentaires comme ça sont écrits, ça va faire en sorte que peut-être qu'un jour, il y a des policiers qui vont hésiter parce qu'ils savent qu'ils vont passer, excusez-moi l'expression, mais qu'ils vont passer dans le tordeur après, là, alors qu'ils ont fait leur travail, puis qu'ils ont sauvé leur vie, puis qu'ils ont sauvé celle de leurs concitoyens. Il y a des policiers qui vont peut-être hésiter Puis là, ça va causer des drames. Pourquoi? Parce que justement, ils vont se dire, oh my God, qu'est-ce qui va se produire? La dernière chose qu'on observe ou qu'on retient lors d'une situation comme ça, là, c'est la couleur de l'individu, c'est l'orientation sexuelle, c'est le sexe, l'habillement. On se concentre sur la menace. Ce sont les mains qui tuent, pas les yeux, pas la couleur. Et ça, je vous dirais que tout ce qui s'en vient après, moi, pour avoir participé à des rétroactions puis avoir été témoin de certains événements, c'est souvent l'après-événement qui est souvent le pire à endurer pour les policiers, justement, parce que ces gens-là ont l'intime conviction qu'ils ont fait leur travail en concordance avec les lois, leurs principes moraux. Et là, ils se font bombarder, se font accuser, se font traiter de tous les noms parce que cet individu-là provenait d'une communauté ou d'une autre. Il y a personne qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui souhaite avoir à intervenir dans une situation comme ça et en arriver là. Et la couleur de la personne n'a absolument aucune importance à ce moment-là. Comme je vous dis, c'est un détail que les gens n'ont pas le temps d'évaluer ou même de souvent, observer parce que ça se passe tellement vite.
Absolument. André Gélinas, policier retraité au SPVM, merci beaucoup de nous avoir expliqué cette facette de votre métier qui, évidemment, personne ne veut être dans cette situation-là, mais ça fait partie des aléas du métier, très évidemment. Merci beaucoup.
Tout plaisir, c'était pour moi, M. Wongrain.
Au revoir. On va s'arrêter pour une courte pause, mais je vous le dis, là, ils ont besoin d'un cours de communication. Ça veut-tu dire que pour ceux qui ne sont pas de cette couleur-là, c'est pas la même affaire? Ou si on ouvre la porte à dire, ben voici, on a un profil, nous autres ici, qui peut avoir des antécédents en semblable matière. Je comprends pas. Honnêtement, c'est une erreur de communication. On s'arrête pour une pause.